L'AJT du local.
À 12h15. Sur 107.9, 101.7, à l'autre radio, à Château-Gontier et puis à Laval aussi.
Bonjour, bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans l'AJT du local de ce jeudi 24 juin et je n'ai jamais été autant entouré en studio puisque là tous les micros sont pris. Alors on va y aller un par un, allez c'est parti, comme à l'école. Non, je plaisante. Je suis donc avec Geoffroy, salut Geoffroy.
Bonjour Marie, bonjour tout le monde.
Avec aussi Juliette.
Bonjour, bonjour tout le monde.
Et aussi avec Claire.
Salut Marie, salut tout le monde.
Si, en fait, ça fait peut-être un petit peu cours d'école. Mais en tout cas, je suis très contente de faire l'émission avec vous. Une émission en plus très remplie aujourd'hui puisque on va parler, entre autres, des soucis rencontrés à l'hôpital de Mayenne avec le service de chirurgie qui est menacé de fermeture. On en parlera justement. On va parler aussi de choses un peu plus légères. Hein, ce week-end, une exposition photo proposée à Ménil. Et puis aussi des lycéens, je pense, soulagés en tout cas d'avoir fini leur épreuve du bac. Ça, c'est Geoffroy et Juliette qui sont allés à la sortie du lycée Ambroise Paré à Laval. Et puis aussi une émission de radio comme les grands. Alors, ce ne sont pas nos successeurs, mais peut-être dans 10 ans, 15 ans, puisque ce sont les élèves en CM2 de l'école Victor Hugo de Laval qui, eux aussi, se sont essayés à une émission de radio. Et c'est plutôt réussi, en tout cas, ils ont beaucoup apprécié, vous l'entendrez. On poursuit là aussi, puisque J-6 maintenant, et oui, on va faire le décompte avant l'étape du Tour de France à Laval de passage. Donc, les coureurs seront de passage dans le bon ordre, le mercredi 30 juin désormais. Et donc, on continue de vous donner un peu tout le programme des animations qui sont proposées et comment s'organise un tel événement. Et puis aussi, aujourd'hui, je vous avais dit qu'il y avait beaucoup de choses. Ne manquez pas la chronique d'Agnès, chronique sur les associations consacrées là aussi à la socio-esthétique. Elle nous expliquera tout. Mais tout de suite, on commence avec un point sur l'actualité avec toi Juliette. La grève est reconduite dans l'entreprise Ramon et Sofral.
Et oui, à l'appel du syndicat Force Ouvrière, les salariés de l'entreprise du groupe LDC, numéro 1 de la volaille en France, sont en grève depuis lundi. En cause, la suppression des primes d'intéressement et de participation. Au total, 200 grévistes répartis entre l'usine de Lassay-les-Châteaux et celle de Javron-les-Chapelles. Le syndicat réclame un partage plus équitable de la valeur ajoutée et pointe aussi une dégradation des conditions de travail depuis la crise sanitaire. Suite à l'échec des négociations avec la direction, la grève a été reconduite hier. Et d'après le syndicat, une représentante syndicale aurait été, je cite, « menacée d'agression physique par un cadre de l'entreprise en cas de poursuite du mouvement ».
Et puis là aussi, c'est mouvementé la fin de campagne pour les élections régionales dans les Pays de la Loire.
À quelques jours du second tour, l'ambiance est tendue entre Mathieu L'Orphelin et Christelle Morançais. Il y a quelques jours, le candidat d'Europe Écologie Les Verts accusait des militants Les Républicains de propos homophobes à son égard et demandait une condamnation publique de la candidate de la droite. Après un affrontement à coups de communiqué, les tensions sont montées d'un cran hier soir. Le débat qui devait avoir lieu a été annulé au dernier moment suite à un échange houleux entre les deux candidats. Un nouveau débat est prévu ce soir à partir de 17h45 sur France 3 Pays de la Loire.
Et puis, on reparle de la situation sanitaire. Juliette, tous les indicateurs du Covid-19 sont à la baisse en Mayenne.
Dans son dernier bulletin, l'Agence régionale de santé confirme le ralentissement de l'épidémie dans le département. Le taux d'incidence, qui mesure le nombre de nouveaux malades sur une période donnée, continue de décroître, tout comme le taux de positivité, qui indique le pourcentage de cas positifs par rapport aux tests réalisés. 13 personnes sont encore hospitalisées, dont 2 en réanimation, mais aucun décès depuis le 18 juin à cause du virus. Le taux de vaccination est en augmentation avec plus de 150 000 Mayennais qui ont reçu leur première dose et 70 000 leur deuxième dose.
Des cyclistes victimes d'actes de malveillance dans le Nord Mayenne.
Ces derniers jours, plusieurs groupes de cyclistes ont roulé sur des punaises dispersées sur une portion de la voie verte entre la Lasselle et Pré-en-Paille. Et ce n'est pas la première fois, depuis son ouverture en 2020, c'est la quatrième fois que cet incident se produit. La voie verte a depuis été nettoyée par le département qui, je cite, « condamne fermement cet acte malveillant ». Une main courante a également été déposée à la gendarmerie.
Puis il est encore temps, Juliette, de réserver vos places pour la Chalibaude.
Après son annulation en 2020, le festival d'art de rue revient ce week-end à Château-Gontier et il reste des places. Une vingtaine de compagnies se produisent samedi et dimanche, au programme danse, théâtre, musique, cirque et bien plus encore. Les spectacles sont gratuits et sur réservation pour respecter les mesures sanitaires. Vous pouvez retrouver le programme et réserver vos places sur le site www.chalibaude.fr dans la rubrique Info Pratique.
Et puis un autre festival qui sera un petit peu plus loin, les Bouillotins, mais qui recherche déjà des bénévoles.
Le festival, qui a lieu le 27 et 28 août prochain dans le centre de Saint-Poix, a ouvert ses inscriptions pour les bénévoles. Ils ont besoin d'aide pour le montage et le démontage du festival, mais aussi pour de nombreux postes pendant le festival, restauration, billetterie, points info, accueil des artistes, etc. Pour vous inscrire, rendez-vous sur bénévoles.mouillotin.fr.
Et je crois d'ailleurs que cette année, il y a une brigade spéciale pangolin pour en fait vérifier que tous les gestes barrières sont bien respectés, puisque oui, c'est la condition nécessaire pour la tenue de ce festival. On parle des services de surveillance continue et de chirurgie qui sont menacés à l'hôpital de Mayenne. C'est ce que craint le syndicat FO, qui manifeste contre ce projet samedi à 10h30 devant l'hôpital de Mayenne. Force ouvrière se base sur un contrat d'engagement réciproque entre le centre hospitalier du Nord Mayenne, l'hôpital de Laval et l'agence régionale de santé. Document de travail révélé la semaine dernière à la presse. Selon ce texte, qui pourrait être signé le 12 juillet, la chirurgie orthopédique pourrait fermer dès décembre prochain, suivie en 2022 de la chirurgie viscérale et des soins intensifs notamment. Inacceptable pour Sébastien Lardeux, secrétaire général de l'Union départementale FO de la Mayenne.
Nous sommes extrêmement inquiets parce que cette convention, cet engagement réciproque prévoit la fermeture de la chirurgie à l'hôpital de Mayenne, chirurgie programmée et non programmée, c'est-à-dire chirurgie urgente, à l'horizon d'un début de fermeture en décembre 2021 jusqu'à décembre 2022. Et aussi la fermeture de la surveillance continue, c'est-à-dire des soins intensifs de l'hôpital de Mayenne. 26 lits, à peu près, on pense, une cinquantaine de postes. Sans compter les postes collatéraux. C'est-à-dire que fermer la chirurgie et la traumatologie fait qu'il y aura des conséquences sur les urgences, bien sûr, sur l'activité des urgences, sur l'activité de la radiologie, sur l'activité du laboratoire, etc. Et sur aussi les fonctions support. Donc, d'ailleurs, ce document, il n'y a aucune étude d'impact sur ce qui va se passer de la fermeture et la chirurgie. C'est-à-dire qu'on ne sait pas ni l'impact pour la population, ni l'impact pour le personnel, ni l'impact pour l'hôpital. Je rappelle juste que l'année dernière, en 2020, il y a eu 1128 hospitalisations complètes à l'hôpital de Mayenne en chirurgie. Bon, à côté, si on ferme la chirurgie, vont aller où? On a déjà fermé des lits à l'hôpital de Mayenne. Depuis 2014, 79 lits conventionnels ont été supprimés à l'hôpital de Mayenne. Dès qu'on a commencé à fermer des lits, on a baissé notre activité, on a donc baissé nos recettes, des médecins sont partis, on a rebaissé notre activité, donc on nous a dit qu'il faut refermer des lits, et là on nous demande de fermer des lits parce qu'on a des problèmes financiers, et on est dans un cercle vicieux, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on demande de fermer des lits, on baisse des recettes, à chaque fois qu'on baisse des recettes, on nous demande de fermer des lits. Les arguments de l'ARS, c'est les finances, le déficit de l'hôpital, qui est réel, mais je rappelle que le déficit d'hôpital, il est dû à trois choses, hein. L'intérêt médical, c'est-à-dire 4 millions d'euros tous les ans à l'hôpital de Mayenne, 3,5 millions d'endettement pour rembourser le beau bâtiment que nous avons, et puis les problèmes de financement, c'est-à-dire depuis des années où on n'est pas financé correctement dans les hôpitaux. Et le deuxième problème, c'est effectivement le recrutement médical. Et le problème, il est réel. Mais est-ce que parce qu'on n'arrive pas à recruter des médecins, on doit fermer un hôpital? Parce qu'en plus, l'ARS dit qu'il n'y a pas de ces médecins de ville en Mayenne. Et donc, on doit fermer l'hôpital? C'est-à-dire, les patients vont aller où s'il n'y a déjà pas de médecins de ville?
Autre source d'inquiétude pour le syndicat, les urgences cet été, où là aussi des médecins manquent à l'appel. Le groupement des hôpitaux de la Mayenne vient d'annoncer le dispositif estival. À Mayenne, Château-Gontier et Laval, les urgences fonctionneront normalement en journée, mais attention, entre 18h30 et 8h30 le matin, donc la soirée et la nuit, il faudra appeler le 15 avant de vous déplacer. 350 photos à l'honneur dans les rues de Ménil ce week-end pour la 18e exposition proposée par le club photo Le Kiosque à Images. La quarantaine d'adhérents y exposera ses clichés de paysages, de portraits ou même des clichés plus graphiques. Après l'annulation de l'exposition en 2020, Frédéric Dire, le secrétaire de l'association du kiosque, est ravi de pouvoir présenter à nouveau leurs photos.
On accueille quand même un public de plus en plus nombreux. À titre d'exemple, en juin donc 2019, on avait quand même autour de 2000 personnes. On aura à peu près entre une cinquantaine et une soixantaine de photos, grand format. C'est 1,20 m sur 80 cm, qui sont dans les rues de la petite cité, hein, de Ménil. Le long du halage, près du port, à côté de l'église, voilà, dans les différentes rues. On a des photos qui seront présentées pour une exposition qui s'appelle « Au fil de la Mayenne », hein, qu'on mettra dans la salle du Vigneau à Ménil. Et c'est en fait compte une exposition parce qu'on a un partenariat avec les archives de la Mayenne. Donc ça sera sur des anciennes photos prises au fil de la Mayenne, en particulier certaines photos prises du côté de Ménil, mais pas seulement, sur aussi les bateaux lavoirs à Laval, mais pas seulement à Laval, aussi sur différents endroits. Dans l'église, ce seront des diaporamas qui seront présentés. Donc on présente chaque année une sélection aussi des diaporamas que certains adhérents ont construit au fur et à mesure de l'année. Alors c'est un peu le but du club parce que en fin de compte, au départ, les gens viennent, on a souvent des débutants. Le problème quelquefois, c'est que les gens ont tendance à garder leurs photos dans leurs ordinateurs ou dans tous les systèmes de stockage qu'on peut avoir aujourd'hui, sans obligatoirement les partager. Et le but du club aussi, c'est d'amener ces personnes-là à présenter, à proposer leurs photos. Justement, on le fait toujours dans un cadre le plus convivial possible, parce que le but, c'est pas de juger ou de... Bon, la critique est la plupart du temps la plus constructive, dans la mesure du possible. Ça n'empêche pas qu'on, bien sûr, d'essayer de donner des conseils. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est le débat par rapport à ces photos. Et puis, c'est surtout pour que ces photos, éventuellement, en tout cas, celles qu'on estime les meilleures, mais que aussi la personne... qui considère qu'elle a quelque chose de particulier, et si elle est validée un petit peu par l'ensemble du club, en général, le but, c'est de la présenter.
Et ce sera donc le cas ce samedi et dimanche à Ménil. Les photos en intérieur sont accessibles de 10h à 18h sur le week-end. Et si vous n'avez pas le temps ou l'occasion en tout cas de passer, séance de rattrapage cet été, puisqu'une partie des photos grand format sera aussi visible au Refuge de l'Arche à Château-Gontier-sur-Mayenne. Et puis, on en a déjà parlé en début de semaine, mais c'est vrai que c'est l'actualité pour eux, pour les terminales. On en parle avec toi, Geoffroy. Les épreuves du bac qui ne sont pas encore terminées.
Eh oui, Marie, en ce moment, les terminales passent leur grand oral. Une épreuve qui permet d'utiliser les connaissances des lycéens pour créer une argumentation et montrer en quoi elles sont essentielles pour leur projet de poursuite d'études et même leur projet professionnel. Sans plus attendre à la sortie du lycée Ambroise Paré de Laval, Flavie, Nathan et Emma nous font part de leurs impressions.
Alors j'ai fait la filière SES et la filière SVT. Pour ma part, vu qu'au début on nous parlait de faire des questions en rapport avec notre orientation, puis après ça a changé d'avis et tout, moi j'ai préféré rester sur cela. Comme par exemple je m'oriente vers les jeux vidéo, et bien que ce soit la question SES ou SVT, j'ai fait mes deux questions sur les jeux vidéo. Au début, chez moi je m'inquiétais beaucoup, mais une fois sur place, le stress s'est relâché et j'ai été tranquille pendant tout l'oral. L'année a été quand même très difficile avec différents confinements à différents moments. Moi, je fais partie de l'école de l'Immaculée Conception. Donc, on était très souvent présents à l'école, mais parfois on était en distanciel. C'était assez chaotique comme présentation.
Et j'ai pris la filière physique, chimie et mathématiques. Et du coup, j'ai été pris comme sujet physique, chimie. Et au début, j'ai stressé, mais après, tout est allé pour le mieux. Et après, on est passé du coup sur un projet d'orientation. Je voulais devenir justement kinésithérapeute. Je voulais partir à Angers pour faire une première année de médecine. Et du coup, j'ai dû expliquer pourquoi, etc., à quel moment j'ai voulu être kiné.
Je suis passée sur le sujet de géopolitique. Du coup, c'était comment sauver le patrimoine culturel des pays en guerre. Et oui, en général, ça s'est bien passé. Franchement, les profs, ils étaient bienveillants, ça a été. Et quand ils voyaient que j'arrivais pas trop, vraiment, ils m'aidaient. Donc non. Comme on a 20 minutes de préparation, ça permet de se préparer et de se détendre un peu. Nous, à l'Immaculée, on a toujours été en présentiel. Du coup, nos profs, ils nous ont vraiment aidés. Et je pense que pour ceux qui étaient en distanciel, ça va être un peu plus compliqué, mais nous, ça l'a fait.
Le grand oral se poursuit jusqu'au 2 juillet. Dernière épreuve d'une année particulière avec la Covid-19, c'est désormais les grandes vacances pour nos lycéens, lycéennes interviewés.
Et oui, bonnes vacances à ceux qui sont déjà en vacances, puisque, et force et courage à tous ceux à qui il reste justement ce fameux grand oral jusqu'au 2 juillet, et puis force et courage aussi à tous les autres qui passent des examens. On vous propose justement une petite pause en musique avec Monkey de FFF. my name. Monkey FFF, oula, moi du coup je suis un peu enrouée, Monkey FFF dans la JT du local, vous êtes bien à l'écoute de l'autre radio et on va justement parler de nos peut-être futurs successeurs, on ne sait pas, d'une vraie émission de radio comme les grands puisque la relève est assurée avec les élèves de CM2 de l'école Victor Hugo à Laval. Ils ont créé leurs propres émissions de radio, aidées bien sûr par la journaliste Julia Lecorec en résidence pendant 6 mois à la ville de Laval. L'occasion d'expliquer concrètement ce qu'est le métier de journaliste, comment on trouve les infos et comment on fabrique techniquement une émission de radio. Et on a eu la chance de pouvoir se glisser dans les coulisses lors du dernier enregistrement il y a une dizaine de jours.
Comme vous le savez tous, les grandes vacances approchent. Yes, plus de devoirs, plus d'école.
Les grandes vacances, c'est effectivement le thème de notre émission. Deux de nos camarades,
Maria et Cassie, vont nous présenter leurs vacances de rêve.
Alors je m'appelle Morgane Carlo, je suis l'enseignante de la classe de CM1, CM2 à l'école Victor Hugo.
Ce projet radio, c'est une première ici avec cette classe ?
Alors j'avais déjà fait moi avec d'autres classes précédemment, mais c'est la première fois avec cette classe. On a la chance d'avoir Julia Lecorec qui est en résidence à Laval. Donc on en a profité puisqu'on faisait un travail sur la presse, le journalisme et la liberté d'expression. Alors on a eu 15 heures en fait le projet, on a eu 15 heures d'intervention. Et là, aujourd'hui, c'est la dernière intervention de Julia, donc la dernière émission de radio qu'on va enregistrer. On en a déjà enregistré deux. On l'a préparée, bien sûr, auparavant. Et les élèves étaient très motivés, ils sont bien rentrés dans le projet. Donc même après, entre les séances, ils travaillaient entre eux par petits groupes pour préparer les papiers, parce qu'ils devaient rédiger les papiers. Ils ont appris à rédiger un papier, ce que c'était qu'un papier, une émission de radio, le fonctionnement. Et donc, ils ont appris beaucoup de choses à travers ce projet. Et ils travaillaient même en dehors du temps scolaire, entre eux. Ils ont vraiment, je crois, beaucoup aimé ce projet. En plus, on a eu la chance d'avoir le maire de la ville qui est venu quand même à l'école pour une interview. Donc, ça les a beaucoup motivés. Et puis, tout ce qui était micro-trottoir, aller interroger leurs petits camarades de CP, faire des papiers sur ce qui les intéresse. Ça aussi, ça les a beaucoup intéressés. Et puis le fonctionnement de la radio, justement, faire une émission de radio, comment ça fonctionne, la technique, parler dans un micro, s'exprimer clairement, tout ça, c'était très intéressant.
Ça peut même compléter ce que vous faites en classe à côté ?
Exactement. On a travaillé dans différents domaines, puisqu'à la fois, on travaille sur le journalisme, la liberté d'expression, la fabrication de l'information, trier l'information, mais également rédiger un papier, et puis le travail à l'oral, s'exprimer oralement, correctement, au micro. Certains étaient très étonnants, très à l'aise. Ah oui, beaucoup de surprises derrière un micro. Certains étaient très étonnants, très à l'aise. Et donc c'est bien parce que ça fait travailler ça aussi, le fait de s'exprimer devant un public.
Le temps vous paraît long pendant vos vacances ? Tout de suite,
les astuces et les loisirs de Chérifié, Toana et Johanna.
Bonjour, nous allons...
Bonjour, bah moi c'est Léa, j'ai 11 ans, je suis en CM2 à l'école Victor Hugo. J'ai beaucoup apprécié que Julia Lecorec vienne dans notre classe. Ça a fait beaucoup de séances et comme moi j'aime bien faire ça, parce que déjà on fait moins de travail. Bon, même si c'est du travail, mais voilà, dans un autre sens. Ce qui m'a surprise, c'est aussi entendre ma voix. Bah je me suis dit, ah mais c'est pas ma voix ça. Bah c'était bizarre. Mais en tout cas, moi, j'ai bien aimé, j'ai adoré même. Bah, déjà, prendre plus confiance en moi quand je parle, parce que je stresse beaucoup. Même là, j'ai stressé, mais c'était... Comme j'avais déjà fait plusieurs émissions comme ça, donc avec le maire, cette émission-là, et la dernière émission, la première donc, bah, j'ai appris à moins stresser, à plus prendre confiance en moi et... Et voilà, moi je trouve que ça c'était bien.
Je m'appelle Julia Lecorec, je suis journaliste en résidence à Laval et Laval Agglo depuis 6 mois. Et j'achève ma résidence aujourd'hui.
Justement, l'objectif pendant ces 6 mois, c'était quoi ?
Alors il y avait plusieurs objectifs. Il y a 2/3 de mon temps qui était consacré au scolaire. Donc j'avais 4 classes médias. C'est-à-dire que j'avais 4 classes que je suivais toutes les semaines pendant la durée où j'étais là. Donc j'avais 2 classes de CM2, bah, la classe là, de Victor Hugo avec le projet radio, et une classe à Saint-Berthevin sur un projet de journal télévisé, une classe, mais c'était plusieurs classes mixées, on va dire, première au lycée Ambroise Paré sur un projet de reportage sur l'orientation. Et on a réalisé un web documentaire aussi avec le lycée Buron, avec les premières options cinéma audiovisuel. Et puis à côté de ça, j'avais aussi des missions, on va dire, un peu plus en one shot sur les fake news. J'ai pas eu d'intervention sur les théories du complot parce qu'il n'y a pas eu d'attente là-dessus. Et puis d'autres petites interventions sur la construction d'un article ou d'aider, par exemple, des projets de journaux, en fait, et de venir à une conférence de rédaction pour donner un petit peu mon avis. Et à côté de ça, j'avais tout un volet pour les adultes. Mais avec le coronavirus, en fait, ça a été assez compliqué cette année. Heureusement, les écoles n'ont pas fermé, à part au mois d'avril, mais on a reporté ma résidence pour que je puisse faire quasiment toute ma résidence comme c'était prévu au départ. Mais j'ai du coup concentré là, à la fin, j'ai fait une conférence à la bibliothèque sur Wikipédia mardi dernier. J'ai présenté aussi mon sujet, il n'y avait pas beaucoup de monde, mais j'ai quand même fait ça un soir aussi à la bibliothèque, et puis fait des formations pour les bibliothécaires, parce qu'en fait j'étais accueillie par les bibliothèques de Laval. Et on a fait une petite vidéo, on a commencé avec des usagers des bibliothèques de l'aglo pour expliquer comment fonctionne la navette qui apporte les livres de bibliothèque en bibliothèque. Et on a écrit un scénario ensemble avec des usagers et on a fait le tournage là avant-hier. Donc pas mal de choses.
C'est ce que j'allais dire, ça fait beaucoup de missions avec des publics aussi différents. Comment on s'adapte à chacun ?
Du coup, moi j'avais une petite expérience déjà sur Nantes, mais sur l'éducation aux médias avec des publics jeunes, donc je connaissais un petit peu. Et avec les adultes, c'est vrai qu'on est journaliste, on est quand même habitué à parler avec plein de gens différents. Donc c'est vrai qu'on s'adapte assez vite, mais ça fait partie de notre métier de savoir s'adapter à tout public et de pouvoir parler à n'importe qui. Donc c'est vrai qu'il n'y avait pas trop de difficultés là-dessus. Après, c'est vrai que moi, c'est ma première résidence. Du coup, je suis partie de zéro et j'ai dû vraiment créer tous mes modules. Donc c'est vrai qu'au début, même à la fin, hein, mais ça roule un petit peu plus. Mais ça demande énormément de travail de préparation. Et ce qui est bien, c'est que, en tout cas avec les enfants, c'est assez radical. C'est-à-dire que si ça marche pas, ils nous le rendent tout de suite. Donc c'est même pas la peine de continuer. Faut changer tout de suite. Soit de sujet, soit de façon de travailler. Et quand ça marche aussi, ils ont pas de fil, donc ils sont super contents, donc ils nous le rendent bien. Mais c'est vrai que, faut s'adapter en direct, en fait. Mais c'est vrai que faut pas continuer. Si on voit que ça fonctionne pas, faut trouver autre chose, quoi.
On n'imagine pas comment on prépare justement un atelier d'éducation aux médias. Ça vous a demandé, c'est un travail différent de celui de journaliste en tant que tel. Ça vous a demandé beaucoup de préparation, et justement, oui.
En fait, il y a quand même quelques ressources parce que je suis accueillie par les bibliothèques et puis il y a un partenariat avec l'éducation nationale et avec le CLEMI qui s'occupe de l'éducation aux médias dans l'éducation nationale. Et donc j'avais deux référents et ils m'ont fourni un petit peu des supports. Mais après, c'était surtout à moi d'aller en chercher sur Internet. Alors j'étais étonnée du nombre de supports sur l'éducation aux médias qui existent. Et après, c'est un petit peu comme des professeurs, c'est que limite, il y a trop de choses. Et j'étais noyée, en fait, dans les informations, un peu comme les gens avec qui je parle sur ma résidence. Et c'était de faire le tri et puis surtout d'adapter des choses que je savais faire et puis qui me plaisaient, quoi. Parce que si pour motiver les gens, il faut être aussi motivé, il faut que ça nous plaise un minimum.
Quel était justement l'intérêt ou les intérêts même par rapport, alors que ce soit les jeunes ou même le grand public, est-ce que c'est de vraiment déconstruire aussi toutes les idées reçues qu'on peut avoir sur le métier de journaliste ou déjà juste expliquer comment ça fonctionne ?
Les enfants, c'est vrai qu'ils ont une vision plutôt, mais les adultes aussi, c'est vrai que y a l'image, en gros, c'est surtout des présentateurs. ça va être un peu de la star, voilà. Et du coup, la première chose, c'est d'expliquer notre métier, qui est finalement, c'est ce que je dis à chaque fois, un métier d'artisan. C'est-à-dire qu'on recherche, on fait aussi un peu un métier d'enquêteur, enfin comme une enquête policière, c'est qu'on va à la recherche de l'information et en fait, on ne la trouve pas tout cuit. Donc c'est un vrai travail d'aller démêler le vrai du faux. Je leur expliquais aussi que, par exemple, c'est quand on voit un accident. Si on est placé d'un tel endroit ou en face, on ne voit pas du tout la même chose. Donc il faut opposer aussi les visions. Et puis il y a parfois des gens qui aussi, pour faire de la communication, soit en politique, soit dans, par exemple, les industries agroalimentaires, qui vont nous mentir. Donc là aussi, il faut savoir qui nous parle, pourquoi ils pourraient mentir, et puis aller chercher d'autres sources. Et c'est vrai que c'était plutôt aussi, oui, la question des sources, mais c'est surtout de dire que... moi, ce que je dis, on m'a pas dit, tiens, hop, tu dis ça. Je suis allée la chercher et puis c'est un vrai travail. Et ça, oui, ils ne s'en rendent pas trop compte, je pense, au départ. Après, sur les adultes, le problème, c'est que j'ai eu moins d'interventions que prévu. Mais c'est vrai que ça va être plutôt les médias nous mentent. Mais c'est vrai qu'en même temps, c'est... un métier détesté et un métier qui fascine. Donc, dès qu'on discute et qu'on explique notre méthodologie de travail, notre manière aussi de voir les choses, puis notre déontologie, c'est vrai, ça descend tout de suite. Et puis, c'est plutôt de la curiosité, finalement, après. Et puis, c'est une discussion qui s'engage et c'est intéressant, quoi. Pour le coup, j'ai eu aucune difficulté. Après, c'est aussi peut-être le territoire. Je veux dire, c'est un territoire où les gens sont assez instruits aussi. Dans les écoles, j'étais étonnée du nombre d'élèves qui connaissaient les journaux. Parce qu'il y a d'autres endroits, après même ici, mais c'est vrai que c'est pas toujours le cas. Et il y avait quand même une bonne connaissance de départ, donc je passais assez vite dessus, surtout que les jeunes lisent plus les journaux. Donc à un moment, c'est bien de leur présenter, mais c'est pas leur support, donc faut aussi s'adapter, quoi. Et le fait de leur faire faire, c'est comme ça qu'ils se rendent compte vraiment de notre travail, quoi.
Vous-même, du coup, qu'est-ce que ça vous a appris aussi? Parce que j'imagine que ça va dans les deux sens, vu que c'est une nouvelle expérience, vous en retirez forcément quelque chose.
Eh bien, moi, de toute façon, je voulais faire de l'éducation aux médias depuis longtemps. Et puis, c'est vrai que ça fait longtemps que je suis journaliste, ça fait 13 ans. Et je me pose des questions dans la manière dont on traite l'information. Je pense qu'il y a plein de choses à revoir. Et du coup, créer un dialogue, justement, avec les téléspectateurs, avec les citoyens et qui ont des bonnes idées aussi là-dessus, ça permet aussi... Ça me fait un temps où je me pose, où je suis plus dans la production, où on me demande souvent énormément aussi. Et là, c'est un temps pour les autres qui a du sens. Et puis aussi un temps où je m'interroge sur ma manière de travailler. Et du coup, ça permet aussi de prendre du recul sur sa manière d'exercer son travail. Et puis, en fait, ça m'a fait personnellement beaucoup de bien. Parce que les enfants ou même les adultes, il y a un retour direct qu'on n'a pas forcément quand on fait des émissions ou du documentaire, parce qu'on a peu de retours. Et là, c'est hyper gratifiant parce qu'on voit que il y a soit que les gens sont contents ou ont appris des choses. Et c'est vrai que ça fait du bien de servir à quelque chose, mais de manière d'avoir le retour immédiat, quoi. Et puis c'est nécessaire. J'avais cette envie de faire cette résidence parce que c'est vrai qu'il y a une énorme défiance envers les médias. Il y a de plus en plus de fake news. J'ai quand même remarqué que il y a des jeunes qui savent pas, qui s'interrogent pas, quoi. Il y a un petit peu une dépolitisation de certains jeunes et du coup qui manquent parfois un petit peu d'esprit critique sur ce qu'ils lisent, sur ce qu'ils republient sur les réseaux sociaux, et de se poser pour justement redire attention, qui vous parle, pourquoi ils vous parlent, et vérifier toujours les sources. Je pense que c'est hyper important actuellement.
Les émissions radio réalisées avec les enfants seront disponibles pour leurs parents. À noter aussi que nous, l'autre radio, on propose des ateliers radio pour les enfants, les petits et les grands. Si vous avez envie d'écouter un peu ce que ça donne, rendez-vous sur notre site page Atelier Radio. Et puis aussi, à noter que nous recrutons un animateur ou une animatrice d'Atelier Radio pour septembre. Tous les renseignements sont à retrouver sur l'autreradio.fr et pour déposer votre candidature, vous avez jusqu'au 20 juillet à l'adresse suivante bureau@l'autreradio.fr. On revient d'ici quelques minutes, le temps d'écouter Tame Impala avec Borderline. Borderline dans l'agité du local sur l'autre radio. Et puis, comme promis en début d'émission, on parle des associations lavalloises qui sont à l'honneur grâce à la chronique d'Agnès et focus ce jeudi sur la socio-esthétique ou comment aider des populations fragilisées à se sentir mieux grâce par exemple à la coiffure ou au maquillage.
Si on est précaire, qu'on est malade, qu'on est âgé, notre identité est parfois fragilisée. Les socio-esthéticiennes travaillent à la réconciliation entre le corps et l'esprit. Anne-Sophie, qui est trésorière de l'association AMSE, est justement socio-esthéticienne. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur cette profession, Anne-Sophie ?
Donc moi, je suis socio-esthéticienne depuis 4 ans maintenant. Et je travaille donc dans les EHPAD, à l'hôpital, dans des structures sociales. Et en fait, je m'occupe voilà, de populations qui sont plutôt fragilisées ou souffrantes ou qui ont des problèmes plutôt psychiques. Et en fait, on va se servir des outils esthétiques pour travailler l'estime de soi, la revalorisation, pour essayer de redonner un petit peu d'élan vital et puis pour créer du lien.
Donc concrètement, par exemple, pour une personne malade, une personne qui aurait un cancer, par exemple, comment vous pouvez l'accompagner en tant que socio-esthéticienne ?
Alors nous, en tant que socio-esthéticienne, en fait, on travaille avec les équipes pluridisciplinaires dans les services, avec vraiment tous les soignants, si on peut dire. Donc en fonction des besoins de la personne, si c'est vraiment quelque chose plus lié au moral ou alors dû au traitement de chimiothérapie, par exemple en oncologie, on va adapter nos soins. pour essayer de limiter tous ces désagréments et que la personne soit le plus confortable possible et voilà, qu'elle essaye de vivre entre guillemets au mieux ses traitements et qu'elle essaye aussi de retrouver une identité qui peut être perdue à cause de la maladie, la perte de cheveux, voilà, ça peut vraiment jouer.
Et aujourd'hui, vous êtes regroupée avec d'autres socio-esthéticiennes en association. Est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots sur la naissance de l'association ?
Alors la MSE, donc, c'est l'association mayennaise de socio-esthétique. Nous sommes quatre. Nous avons créé l'association en mai 2020. Le but, c'est vraiment de se regrouper pour faire connaître la socio-esthétique, pour valoriser notre métier et voilà, après pour faire des actions plutôt bénévoles auprès de structures pour faire découvrir ce joli métier.
Alors justement, vous avez déjà mené plusieurs actions. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu plus ?
Alors, on a mis en place une action Octobre Rose. Nous devions faire une action à la polyclinique avec les professionnels de santé, les patients, pour pouvoir faire des mini-soins aux patients et leur donner des produits qui nous ont été donnés par nos marques partenaires. Ça n'a pas pu être fait, donc nous avons distribué des kits au domicile des patientes. Là, nous avions aussi un projet pour la journée de la femme. On avait convié 6 associations mayennaises et nous devions faire des mini-soins aux bénéficiaires pendant toute cette journée de solidarité. Du coup, ça a été mis un petit peu entre parenthèses. On a quand même pu faire une mini-action à l'association AIDS, faire des mini-soins pour faire découvrir et puis pour que ce soit... que cette journée soit quand même basée voilà, sur la solidarité.
On comprend bien du coup comment les socio-esthéticiennes peuvent redonner le moral et du coup on a envie de soutenir vos actions. Forcément, comment on peut faire si on veut soutenir l'association ?
Alors l'association, vous pouvez faire des dons financiers. Vous pouvez aussi intégrer l'association pour être bénévole après sur nos actions.
J'imagine qu'on peut aussi vous faire des dons en nature.
Oui, voilà, si des associations ou des professionnels peuvent faire des dons sur des produits pour qu'on puisse distribuer nous aussi à nos patientes derrière ou alors faire des actions... Ça, c'est possible.
Très bien. Bah, j'espère que vous serez entendus pour toutes ces formes de soutien. Et juste à terme, est-ce que vous avez quelques rêves pour l'association ?
Alors, nous avons des objectifs. On aimerait que les soins de socio-esthétique soient remboursés par la Sécurité sociale. On travaille dessus donc au niveau national. Et aussi pouvoir faire bénéficier de soins gratuits à nos patients ou à nos bénéficiaires grâce aux dons faits à l'association.
Bon, bah, on vous souhaite vraiment de tout cœur que ça se réalise parce qu'on est vraiment convaincus du pouvoir de la socio-esthétique. Merci beaucoup.
Merci à vous.
Et merci beaucoup Agnès pour cette chronique. Et il y aura certainement de nouvelles chroniques signées Agnès justement qui vous attendront à la rentrée radiophonique. Il va falloir attendre d'ici le mois de septembre. Pas besoin d'attendre aussi longtemps pour voir les coureurs passer puisque ce sera ce mercredi 30 juin à Laval. Toute la ville s'est mise aux couleurs de la Grande Boucle. Et à défaut de participer au Tour de France, Claire, on peut se lancer sur un vélo d'appartement.
Et oui, l'objectif, réaliser le plus de kilomètres en 2 minutes. Et finalement, pas si simple. À la maison de quartier Saint-Nicolas, la semaine dernière, j'ai eu la chance de rencontrer Mézine, 15 ans, qui a réalisé le meilleur score de la journée.
J'ai fait 2,5 km en 2 minutes. Bah, c'est plutôt bien, ouais. C'était bien, plutôt intéressant comme sport. Il y a ce qui nous donne l'envie de faire du sport avec les machines comme ça. Je suis du VTT, je connais du coup, ouais. Ouais, c'est pas mal. C'est bien pour rester. Faire du sport à la maison comme sport, quoi. Comme en ce moment avec le Covid, on ne peut pas trop faire du vélo dehors. Cette machine est bien faite pour faire du sport.
Moi, c'est Guillaume Rose, donc je suis animateur référent famille sur la maison de quartier Saint-Nicolas. L'objectif, c'était aussi que nous, on remobilise un petit peu les habitants, qu'on les fasse ressortir, qu'on leur amène un peu de plaisir. D'où cette animation qui est à la portée de tout le monde, qui permet au plus grand nombre de pouvoir l'utiliser. Le vélo d'appartement, en plus sur l'aspect un peu compétition qu'on peut mettre, c'est une distance réalisée en 2 minutes. L'objectif, clairement, c'est que tout le monde puisse se mobiliser sur cette animation-là. Donc on est parti sur quelque chose de très simple. Si on avait eu des vélos, tout ce qu'il y a de plus normal, ça aurait été plus compliqué parce que les gens qui ont un peu moins de mobilité, ça aurait été... compliqué pour eux. Donc nous, notre objectif, c'était de concentrer l'animation sur un lieu dit et aussi de permettre au plus grand nombre de pouvoir y participer. On a fait des activités, mais qui étaient plutôt sur inscription, donc on se limitait en termes de nombre. Là, on a du passage, même si on est toujours limité par le nombre accueilli, mais on a un plus grand espace. C'est plus simple pour nous aussi. Et puis, c'est permettre aussi que les gens se retrouvent, que nous, on retrouve aussi un peu le contact avec tout le public. Donc, on est très contents. On espère que ça va perdurer. Et puis, nous, ça nous permettra d'enchaîner sur la journée du Tour de France le 30 juin. Et aussi sur les animations qu'on va pouvoir mettre sur la maison de quartier et sur la plaine d'aventure cet été. Donc, nous, notre objectif, c'était de préparer et d'être dans la continuité de ce qu'on faisait depuis déjà pas mal d'années. Tout l'attente, c'est en fait, on va dire, un petit quiz avec une carte du Tour de France où les villes ne sont pas situées, mais où l'objectif et le jeu pour tout le monde, c'est de retrouver les étiquettes avec le nom des villes et les replacer sur la carte de France. On la mettra aussi sûrement tous les jours lors du Tour de France pour que les gens viennent mettre le nom du vainqueur de l'étape, mettre le nom du maillot vert, du maillot jaune, du maillot à pois, etc. Donc ça permet d'avoir un petit fil rouge. En fait, c'est un événement qui est connu de tout le monde et c'est aussi un événement qui nous permet de rassembler les gens. Donc c'est sûr que c'est appréciable d'avoir ce genre d'événement dans le coin parce que ça nous permet nous aussi de surfer un petit peu et de proposer des choses autour de ce thème-là.
La carte de France à remplir, vous pouvez toujours la retrouver devant la maison de quartier Saint-Nicolas.
Et ça, j'imagine que c'est jusqu'à la fin du mois.
Et oui, évidemment, pour
puisque,
le 30.
Voilà, exactement, puisque donc il y a le mois du tour avec des événements chaque jour et notamment une conférence ce soir au Crève sur le vélo dans tous ses états avec différentes anecdotes à retrouver. Attention, par contre, il faut s'inscrire, donc la conférence est sur réservation auprès de la maison de quartier Nord, je crois. Non, pas je crois, c'est sûr, c'est la maison de quartier Nord, effectivement, pour cette conférence prévue ce soir à 20h. Il reste encore quelques places. On passe à la rubrique initiative, toujours avec toi Claire, et on a un programme bien rempli pour demain. On commence avec une sortie nature à la tombée de la nuit.
Les randonnées crépusculaires sont organisées par le CIN, le centre d'initiation à la nature de Laval. Accompagné d'un animateur, vous partirez à la découverte de la faune et de la flore. Vous pourrez pique-niquer sur place. L'animation s'adresse aux plus jeunes comme aux moins jeunes et c'est demain à 18h et il faut réserver votre place au 02 53 74 11 50. Le départ sera au CIN, à l'allée du centre aéré au bois de Lucerie à Laval.
Merci beaucoup Claire pour ces initiatives. C'est la fin de l'agité du local. À demain.
Reportage, invité, interview.
Voilà, c'est l'agité du local.